C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je suis heureux de terminer cette première étude en soulignant le lien que Dieu veut pour ses enfants entre leur obéissance et la motivation la plus belle de cette obéissance, à savoir l'amour. Oh, certes, Dieu n'a rien contre le fait d'obéir parfois par peur. Nous sommes ainsi faits qu'il faut parfois que nous soyons dans la panique pour que nous venions au bon endroit, pour faire ce que le Seigneur veut. Mais bien sûr, Dieu ne voudrait pas que notre relation avec lui soit dominée par la peur. Certes, comme nous le verrons, par un respect, une révérence, ce que la parole de Dieu appelle la crainte de Dieu, qui peut aller jusqu'à l'effroi devant la révélation qu'il plaît parfois à Dieu de nous accorder de quelque aspect de sa majesté. Et ça, nous l'avons trop oublié aujourd'hui. Mais néanmoins, la plus belle des motivations de notre obéissance doit être celle de notre amour. De notre amour pour lui. Notre obéissance devrait d'abord être l'expression de notre amour pour celui qui nous chérit. Obéissance du cœur, obéissance de l'intérieur, une obéissance non formelle, une obéissance à celui qui nous appelle ses amis, ceux qui l'affectionnent. Nous sommes ses soldats, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, nous sommes les amis de l'époux. Et c'est le plus bel aiguillon de l'obéissance que de pouvoir lui dire: Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, j'ai vraiment le profond désir de t'obéir, parce que je ne saurais jamais assez t'aimer en retour de l'amour dont tu m'as aimé le premier et dont tu ne cesses de m'aimer jour après jour, heure après heure, instant après instant. Tu respires l'amour qui fait partie, nous le verrons, intégrante de ta sainteté. Combien je me réjouis de pouvoir simplement le dire, et je l'illustre par cette petite histoire du champ missionnaire. C'est l'histoire d'un enfant, enfant de missionnaire qui joue dehors, et qui soudain, c'est authentique, entend la voix de son père: Philippe, obéis à ce que je te dis. Jette-toi à plat ventre immédiatement. Et le garçon, d'obéir sans poser de questions, ce qui n'est plus tout à fait courant aujourd'hui. Et c'est un euphémisme que de le dire ainsi. Maintenant, viens vers moi, à quatre pattes, aussi vite que possible. Et le garçon, d'obéir. Maintenant, lève-toi, cours jusqu'à moi. L'enfant se lève, obéissant, se jette dans les bras de son père, puis il se tourne pour regarder l'arbre sous lequel il jouait quelques instants auparavant, parce que son père le lui montre. Et il découvre d'une branche, juste au-dessus de là où était sa tête, un serpent long de 5 mètres qui était en train de descendre. Obéissance d'un enfant qui avait appris à obéir, manifestement. Mais c'était la marque de la foi. L'enfant avait confiance en son père. et il l'aimait. Alors, puisqu'il l'aimait, qu'il lui faisait confiance, il n'a pas posé de questions, comme on le fait trop souvent aujourd'hui, où les rapports familiaux sont tellement devenus problématiques à cause des caricatures des pères ou de l'absence des pères, etc., n'est-ce pas ? Il n'a pas posé de questions. Il faisait confiance à son papa. Je demande à Dieu que pour ma part, dans ma propre vie, jusqu'à ce qu'il me reprenne auprès de lui ou qu'il revienne prendre son église, je lui fasse simplement, suffisamment confiance et que je l'aime suffisamment pour vouloir lui obéir par sa grâce et par le ministère permanent de son esprit, parce que si nous devions obéir à l'aide de simplement nos propres forces, nous serions bien entendu vaincus à tous les coups. Mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Il est celui en qui réside le vouloir et le faire pour nous, pour nous. C'est là sa volonté de nous équiper pour que nous soyons rendus capables d'obéir, quelles que soient les circonstances. C'est un apprentissage. Il y aura des échecs, il y aura des chutes, mais nous allons nous relever chaque fois pour aller un peu plus loin dans cette obéissance, parce que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous, à l'instant même où son esprit nous a fait naître à la vie nouvelle. Nous voulons prier. Nous te remercions, ô notre Dieu, d'avoir préservé cette première épître de Pierre dans cette collection complète des livres qui constituent ta sainte parole. Merci de l'avoir préservée pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Parce que son contenu est tellement précieux pour les temps dans lesquels nous sommes. Et nous te remercions de ce que tu aies bien voulu nous rappeler dans cette première étude, l'importance de l'obéissance, notre vocation d'obéissance à ta Seigneurie. Merci, merci de tout cœur d'avoir un maître absolu, un seigneur, un prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tel que toi. Nous te bénissons, ô notre Dieu, parce que tu es doux et humble de cœur. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il fait bon te servir. Il fait bon t'aimer. Il fait bon mettre sa confiance en toi. Merci parce que tu ne nous déçois pas. Apprends-moi de plus en plus à t'obéir avec joie, par amour, même lorsque je ne comprends pas le chemin par lequel tu me fais passer. Sois béni, parce que tu es un Dieu juste, tu es le Dieu saint, comme nous allons le voir. Merci de ce qu'en toi nous soyons loin de l'arbitraire, de la dictature, de la versatilité, de l'instabilité, de la cruauté, du sadisme. Merci pour la beauté de ta personne. Nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous voulons reconnaître ta souveraineté, ta suzeraineté sur chacun d'entre nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous ouvrons la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 1er, nous relisons une partie du texte lu cet après-midi, c'est-à-dire les versets 13 à 20. 1 Pierre 1, 13 à 20. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Tenez votre esprit en éveil. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dans l'épître suivante, la deuxième de Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 10 à 14, 2 Pierre 3, versets 10 à 14. Puisque, donc verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible, irréprochable, dans la paix. Soyez saint. Voilà qui va nous occuper jusqu'à l'étude de demain après-midi. Nous l'avons souligné, c'est une citation que je vous laissais cet après-midi. La sainteté est plus importante que la santé. Ce qui veut dire que dans nos bons vœux pour la nouvelle année, nous serions davantage inspirés de souhaiter plus de sainteté plutôt que de parler de santé, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus aléatoire. J'ai sélectionné en introduction à ce thème majeur, et j'aimerais le souligner ce soir, nous touchons, je dirais, au noyau dur du christianisme. Nous sommes là au cœur du message. Nous touchons au plus important. Et je ne vous cache pas que, même en reprenant pendant de nombreuses heures cette semaine écoulée ce thème, j'ai été impressionné au point quasi de presque me noyer, tellement les Écritures sont riches dans ce domaine essentiel, comme vous allez vous en rendre compte. Je vous livre un court extrait d'un livre remarquable sur la vie de prière. Nous en avons relativement peu en langue française, et surtout peu qui soient de grande qualité. Et celui-ci s'intitule « La prière renouvelée » de Donald Carson. Je vous encourage à le lire. C'est un des livres de très grande qualité qui, après une analyse générale de la vie de prière dans les Écritures, se penche d'une manière toute spéciale sur les prières de l'apôtre Paul pour nous montrer quelle devrait être l'étoffe et le contenu de nos vies de prière personnelles. Et comme j'écris un livre sur la vie de prière de Daniel, ça m'a énormément intéressé. Et dans ce livre, Don Carson écrit ceci: « Nous apprenons vite que Dieu se soucie davantage de notre sainteté que de notre confort. Il prend plus plaisir à l'intégrité et à la pureté de son Église qu'au bien-être matériel de ses membres. Il se révèle plus clairement à des hommes et des femmes qui aiment sa présence et lui obéissent qu'à ceux dont l'horizon se limite à un bon emploi, une belle maison et une bonne santé. Il s'intéresse davantage à construire un temple dans lequel réside son esprit qu'à préserver notre réputation, à manifester sa grâce qu'à flatter notre intelligence, à faire grandir notre foi qu'à étendre notre popularité. Il préfère voir les siens vivre dans la reconnaissance et la joie plutôt que dans l'arrogance et le bonheur superficiel. Il veut que nous recherchions la mort à nous-mêmes et non l'épanouissement personnel, car celui-ci mène à la mort, alors que celle-là est source de vie. » Et ça, c'est une ambition du véritable disciple de Jésus-Christ, d'être animé des mêmes pensées que Dieu. Et une pensée de Dieu, dans les Écritures très fortes, c'est que nous soyons saints. Beaucoup plus, effectivement, que nous nous portions bien, que nous ayons un portefeuille bien garni, une forte popularité, que sais-je encore. Si je le dis, c'est parce que vous savez quels sont les courants qui sont à la mode, non seulement dans le monde moderne, mais dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a déjà une vingtaine d'années de cela, un auteur américain a fait une recension, c'est-à-dire il a examiné toute la littérature évangélique anglophone, donc de langue anglaise, pour déterminer l'orientation des livres. Et il s'est rendu compte que, je crois, plus de, ou aux alentours de 85 ou 88% de la littérature évangélique anglophone était tournée vers le bien-être personnel, la prospérité personnelle, c'est-à-dire était anthropocentrique, centrée sur l'épanouissement de soi. Et que donc les quelques 13% à peu près qui restaient allaient dans la direction des autres grands sujets. Alors vous imaginez le problème. Donc je suis très heureux d'un tel thème parce que là nous touchons vraiment à l'essentiel. Soyez saints. J'ai appelé cela la première des trois mèches de la tresse de l'obéissance. Nous avons évoqué l'obéissance. Et l'obéissance, dans la première épître de Pierre, est une tresse composée de trois mèches. Et nous sommes en face de la première des mèches. Je ne suis pas un spécialiste en matière de tresse, vu que je n'en porte pas. Mais je sais au moins une chose, et c'est le béaba des tresses, c'est qu'il faut trois mèches pour faire une tresse. Et qu'une de ces trois mèches est essentielle. Si elle n'existe pas, vous n'avez pas de mèche. Ce qui veut dire ici que nous sommes en face de la mèche qui permet d'avoir la tresse de l'obéissance. Fondamental, fondamental. Nous allons voir plusieurs éléments d'introduction. J'en ai mis quatre. Avant de nous pencher sur le pourquoi de cet impératif et en vue d'arriver au comment de cet impératif. Quatre points importants dans l'introduction. Le premier de ces points consiste à souligner le contexte de cet impératif. Soyez saints. C'est-à-dire l'époque. Quoique nous l'ayons déjà vu l'an dernier, vous vous souvenez que nous avons pris passablement de temps à lire des extraits, notamment, parmi d'autres, d'un ouvrage absolument passionnant qui s'intitule « La vie quotidienne des premiers chrétiens » de l'an 95 de notre ère à l'an 197, donc sur un siècle, et un siècle très très important, n'est-ce pas, parce que la rédaction des textes néo-testamentaires inspirés était encore très proche, voyez. Et j'ai sélectionné un de ces textes pour vous le relire, parce que à lui seul, il rend bien compte de la problématique pour les croyants auxquels l'apôtre Pierre s'adressait de la part de Dieu. Voici donc un extrait de ce livre qui évoque tout d'abord un de ceux qu'on appelle les docteurs ou les pères de l'Église. Il faut faire attention avec le terme. Il faut toujours se méfier. Mais disons que ce sont généralement des théologiens d'inégale valeur. Plus on quitte les débuts de l'ère chrétienne, plus ces pères de l'Église dévient dans certains domaines de plus en plus fondamentaux. Il faut le savoir. Néanmoins, la plupart d'entre eux nous ont légué un héritage très très intéressant. Au niveau doctrinal dans certains domaines, et puis aussi sur l'approche du christianisme durant les premiers siècles. Nous savons beaucoup de choses grâce à eux. Donc il ne faut pas non plus les mépriser, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'ils disent au pied de la lettre comme si c'était parole de Dieu, parce que, par exemple, les premiers éléments qui sont devenus la doctrine catholique, vous les voyez se développer au fil de ces siècles, le glissement vers la hiérarchie dans le système de la chrétienté, le passage du pédobaptisme, du baptême des adultes au baptême des enfants, et quantité d'autres domaines. On le voit très bien au fil des lectures de ces pères de l'Église. Ici, il s'agit de Tertullien. Le Tertullien est connu. Alors, quand on ne sait rien de Tertullien, on sait au moins une chose, c'est qu'il a écrit et dit que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Ça, c'est la grande phrase que presque tous ceux qui connaissent un tout petit quelque chose savent, n'est-ce pas? Et il a eu raison. Il a eu raison. Il a eu raison aussi parce que Il a vécu de l'an 150 à peu près de notre ère à l'année 222. Vous voyez, c'est encore une époque assez proche aussi, et une époque dans laquelle il y a eu beaucoup de persécutions. Et il a pu se rendre compte lui-même de la vitalité de l'Église de Jésus-Christ parce qu'elle traversait la persécution. Et Tertullien a peint au vif l'embarras du chrétien solidaire de la vie de la cité, avec ses célébrations, ses réjouissances qui blessent le sens moral et les convictions religieuses. Pouvons-nous prendre part avec les païens à ces fêtes, à ces repas, à ces divertissements ? Le jour où l'on vénérait la déesse, patronne de la corporation, ses dévots, les cabas chargés de victuailles, s'en allaient au pèlerinage à son sanctuaire. On saucissonnait, on chantait, on dansait, le vin aidant la température montée et les propos baissés. Les joyeux compères se souhaitent autant d'années à vivre qu'ils vident de verre. À ce compte, ils sont assurés de longévité. Le soir, tout le monde rentrait à la maison, cas un cas, pompette. Et les badauds se rassemblent sur le pas des portes pour voir passer la procession. À Rome, les jours fériés, d'origine et d'inspiration religieuse, mais l'une et l'autre souvent oubliées, occupent plus de la moitié de l'année. Au temps de Trajan, Trajan était empereur de 98 à 117, au temps de Trajan, on compte un jour ouvrable pour deux jours fériés. Par là, Rome imposait sa domination à la masse. Mais chaque jour férié isolait le chrétien et lui faisait mieux sentir son dépaysement. J'ai noté, pour l'avoir lu ailleurs, qu'à cette époque, il y avait 159 jours fériés par an, dont 93 étaient réservés aux jeux du cirque et aux représentations diverses données un petit peu partout aux frais du gouvernement, hein, en plus. Les fêtes religieuses dans tout l'Empire étaient assaisonnées de cérémonies et de spectacles. Les jeux étaient la marque officielle de la fête. Ils étaient, pour ainsi dire, d'obligation. Les jeux du cirque, corsé de Paris, aussi populaire que le tiercé aujourd'hui, favoriser dans le pêle-mêle de la foule les occasions où fleurissent l'aventure. Les pantomimes de l'époque jouaient le festin du tiercé, une pièce, qui avait délecté les sens et mis les femmes en transe avant d'inspirer les accusations contre les chrétiens. Le théâtre tenait du vaudeville et du music-hall. Il mettait en scène des maris trompés, des ménages à trois. Les privautés, c'est-à-dire les familiarités excessives des actrices, poussaient le striptease jusqu'au nu intégral. Une inscription contemporaine d'Hippone la Royale nous a conservé le titre d'une pièce qui avait dû faire fureur, le mari cornard, le mari cocu, hein, simplement. Un chrétien pouvait-il fréquenter, applaudir un spectacle qui bafouait la morale élémentaire et faisait rougir le païen martial lui-même? Comment les bouder sans attirer l'attention de l'entourage? Les jeux de l'amphithéâtre offraient en pâture à la foule déchaînée les tueries féroces et les sacrifices humains qui nous font frémir. L'homme s'y repaissait du sang de l'homme. Et là, au milieu des condamnés de droit commun, des frères, des sœurs, Ignace à Rome, Potin, Attal, Blandine à Lyon, Félicité, Perpétue à Carthage, sont jetés en pâture au lion et à la férocité d'une foule anthropophage. L'héroïsme des martyrs servait de spectacle aux célébrations païennes. L'Église va avoir affaire à forte partie en s'en prenant à la passion du théâtre et du cirque. Il est des fidèles qui délaissent la communauté pour retourner à leur aise à ses divertissements. Au temps d'Augustin, alors ça c'est 4e, 5e siècle, encore à certains jours, l'Église est vide, car les fidèles sont allés voir les mimes ou les courses de chars. Et l'évêque confesse avec une humilité qui n'exclut pas l'humour, « Autrefois, nous avons été nous-mêmes assez stupides pour aller y prendre place. Que pensez-vous? Combien de futurs chrétiens y sont assis à présent? Qui sait combien de futurs évêques ?» Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la température de cette époque. Ce n'était pas plus facile qu'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale, ça atteint des sommets qui montrent que le Christ est à la porte, mais le combat était déjà terriblement rude à cette époque. C'est donc le premier point. Deuxièmement, importance de la sainteté dans la Bible, je le disais déjà tout à l'heure. Le mot « saint » sous ses différentes formes figure plus de 600 fois dans la Bible. C'est pas rien, plus de 600 fois. Il y a également dans la Bible plus de 650 références à la sanctification. Alors nous allons parler tout à l'heure un peu de sainteté et sanctification pour faire la part des choses. Et là, j'aimerais simplement, sans que nous le commentions, que nous lisions encore deux passages importants. 1 Thessaloniciens 4, donc avant Timothée, 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 3 et 7. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 3 et 7. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et le terme ici évoque toutes les déviations de la sexualité. C'est le mot qui a donné pornographie en français, et c'est ce qu'on appelle un terme générique. Il englobe toutes les déviations. Après, à l'intérieur, il y a une quantité d'autres mots, mais c'est tout ce qui consiste à violer les règles d'usage de la sexualité établies par Dieu lui-même pour le bonheur de l'homme. Et je dis bien pour le bonheur de l'homme. L'homme se figure trouver le bonheur en utilisant sa sexualité n'importe comment, et on voit le résultat tous les jours autour de nous, n'est-ce pas? Et ça, c'est le mensonge de la puissance des ténèbres. Donc, voilà un texte qui est très important. Et au verset 7, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et enfin, dans Hébreux chapitre 12, Hébreux, donc peu avant la première épître de Pierre, Hébreux chapitre 12, encore un verset extrêmement fort, Hébreux 12, verset 14, recherchez, verset 14, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et recherchez est un terme extrêmement fort. Quand Saul de Tarse nous dit dans Philippiens 3, par exemple, ou lorsqu'il nous est dit de lui dans le livre des Actes, qu'il poursuivait, qu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ, c'est exactement le même terme qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il nous est dit ici, en quelque sorte, rechercher la paix avec la même flamme, le même zèle, la même ardeur que Saul persécutait l'Église de Jésus-Christ. Ça veut tout dire, hein? Rechercher la paix avec tous. Et alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tas de croyants dans les églises évangéliques en France qui recherche la paix avec tous et qui se réclame de ce texte pour dire « Nous voulons la paix avec tous. Copains, 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 vous êtes tous mes copains, je suis très tolérant. » Et qui oublie qu'après cette première moitié de verset, il y en a une seconde. Et on n'a pas le droit de couper un verset en deux, d'en prendre la moitié, de l'exalter pour en dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, parce que tout de suite, le rédacteur inspiré de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, on n'est pas du tout sûr, mais ça a peu d'importance, c'est Dieu qui nous a donné ce texte, ajoute « et la sanctification ». Parce que ça change tout. Ça ne veut pas dire que on bâtit un autel à la paix sur lequel on sacrifie la fidélité à Dieu, la pureté, la droiture, l'intégrité. Parce que ça, ça fait partie de notre sanctification. Vous voyez, c'est ça notre problème aujourd'hui. Il y a des croyants qui vous lisent Jean 17, que tous soient un, dit Jésus. Bon, on va être tous un, alors on met tout le monde dans le même panier. Même si ce sont des crabes, on lime un petit peu ce qui risque de faire mal. Et on est tous copains-copains, n'est-ce pas? Alors que le texte dit qu'il soit un comme nous sommes un. Et l'unité entre le Père et le Fils, c'était pas n'importe quoi. Vous comprenez? On n'a pas le droit, retenons ça, ça fait partie des leçons fondamentales, mais qui sont complètement et volontairement oubliées dans le christianisme d'aujourd'hui. On n'a pas le droit de manipuler, de triturer les Écritures comme on le fait aujourd'hui, ou des grands ténors évangéliques le font actuellement. Il faut être clair, n'est-ce pas? Donc, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne trouvez pas que ce sont des textes forts? Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de sujet plus important que ça dans les Écritures? Et nous avons lu tout à l'heure le texte de 2 Pierre 3,11, je ne le relis pas. Voilà pour le deuxième point, importance dans la Bible. Troisièmement, il nous faut ici aussi faire quelques définitions. Il faut faire un peu de doctrine, c'est important. On verra des aspects pratiques, mais vous ne pouvez pas bâtir solidement si vous n'êtes pas au clair sur la doctrine biblique. Hein, c'est fondamental. Tout d'abord, qu'est-ce que la sanctification ? Pour parler de sanctification, il faut commencer par parler de justification. Vous ne pouvez pas parler de sanctification sans parler de justification. La justification, c'est un acte souverain de Dieu. Un acte juridique par lequel il me déclare juste. Il fut un temps où je disais, il me considère juste. Je vais plus loin maintenant. Il me déclare juste. C'est une parole de sa part, c'est une parole solennelle, c'est une parole qui est inscrite dans le marbre, écrite dans le livre, c'est sa parole, c'est pas simplement « il me considère dans sa pensée », c'est écrit, « il me déclare, c'est un jugement officiel qui a force de loi ». C'est ça ce que je voudrais souligner, n'est-ce pas? Et c'est un jugement officiel qui a force de loi, parce qu'un événement est intervenu qui me permet d'être déclaré juste, c'est la croix. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé, c'est le revêtement de la justice de Christ, gracieusement, par le pécheur que je suis, lorsque je viens plaider coupable au pied de la croix. Dieu me revêt de la justice de son fils. Il dit, maintenant, je te déclare innocent. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle la version grecque dite des Septantes de l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, une toute petite partie en araméen, le terme innocent, quand il est dans le texte grec de l'Ancien Testament, équivaut au terme justifié qui est utilisé dans le grec du Nouveau Testament. C'est le même terme. S'il est dit dans l'Ancien Testament en grec « tu es innocent », vous avez le terme « tu es justifié ». C'est intéressant, voyez. Donc, je suis innocent. Un théologien écrit ceci: si la doctrine de la justification est essentielle à la religion chrétienne, il est vital pour nous de la comprendre. Que signifie-t-elle? Justification est un terme légal emprunté aux tribunaux. C'est l'opposé exact de condamnation. Condamner revient à déclarer quelqu'un coupable, justifier à le déclarer non coupable, innocent ou juste. Dans la Bible, il se rapporte à l'acte de faveur imméritée par lequel Dieu déclare le pécheur juste devant lui, pas seulement lui accordant le pardon en l'acquittant, mais en l'acceptant et en le traitant comme juste. Dieu regarde son fils. Si je suis directement et étroitement associé à son fils à cause de la mort sur la croix, Dieu me voit en quelque sorte par le fils. C'est extraordinaire. Alors, on comprend, par exemple, la réaction de John Bunyan, vous connaissez, le voyage du pèlerin, hein, qui a passé 12 années de sa vie en prison, qui a écrit une soixantaine de bouquins et qui a vraiment reçu le message, par exemple, du voyage du pèlerin au fond de sa prison à cause de sa foi. Et John Bunyan écrit ceci: « Tandis que je déambulais dans la maison comme le plus malheureux des hommes, soudain, la parole de Dieu transperça mon cœur. Tu es gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est dans le Christ Jésus, Romains 3, 24. Oh, quel changement cela produisit en moi! J'eus enfin l'impression de sortir d'un long sommeil troublé de mauvais rêves. Lorsque j'entendis cette affirmation divine, ce fut comme si quelqu'un s'était adressé directement à moi. Pécheur, tu t'imagines qu'à cause de tes péchés, de tes penchants mauvais, je ne peux sauver ton âme, mais vois-tu, mon fils est auprès de moi. C'est à lui que je regarde, et non à toi. Et je te traiterai à la mesure du plaisir que j'éprouve en mon fils. » Voilà le premier point. À partir de là, qu'est-ce que la sanctification ? Alors là aussi, je laisse un théologien le dire si bien, du XIXe siècle. La justification, écrit-il, c'est un acte divin achevé une fois pour toutes. C'est une déclaration, elle démarre à partir de la croix, c'est fait. Ça repose sur un événement, de la même manière que mon mariage ne repose pas sur je sais quel sentiment, mais sur un fait précis, une déclaration qui figure dans un registre, qui est signée avec des témoins et avec une autorité en place un certain 10 octobre 1970. C'est exactement cela, n'est-ce pas? La justification est un acte divin achevé une fois pour toutes. La sanctification est une œuvre de Dieu qui a débuté à la régénération, c'est-à-dire au moment où nous avons été justifiés, puisque l'un va avec l'autre, se poursuit tout au long de la vie et s'achève à la mort. La première, la justification, est identique et parfaite en tous. La seconde, la sanctification, n'est pas la même en tous, n'atteint la perfection en personne aussi longtemps qu'il vit dans la chair, c'est-à-dire ici-bas. Dans la justification, Dieu porte au compte de l'homme la justice de Christ. Dans la sanctification, il accorde la grâce qui rend capable de traduire cette justice. Alors, c'est vrai qu'au moment où j'ai été justifié par Christ, c'est-à-dire à la croix, j'ai été sanctifié. Les Écritures utilisent ce terme, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que notre sanctification dans son entier est déjà vue par Dieu, parce que c'est notre position, vous comprenez? Mais il faut le vivre. Depuis le 10 octobre 70, je ne sais pas quelle heure il pouvait être, à peu près 2h30, 3h, il est arrivé un moment où on a basculé. Personne n'avait le droit de nous appeler célibataires. Mais mes amis, est-ce que... parce qu'on vient de dire oui, on a perdu ses habitudes de célibataire, comme ça, ploup, hein. Le statut était là. Désormais, nous étions considérés et déclarés mariés. C'était écrit, c'était un acte juridique, mais il y avait du boulot, hein. Pour quitter simplement la position, le statut officiel, et passer à la mise en pratique de tout ce que ça signifie et qui continue à s'apprendre tout au long de sa vie, parce que c'est jamais fini. Mais ça devient de mieux en mieux. Ça, c'est pour encourager, parce que quand on nous raconte que c'est barbant, hein, quand même, c'est tellement mieux de changer de partenaire tous les 15 jours. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, c'est tout. On ne connaît le bonheur que de ce qu'on a. Hein. Bon, bref, je ne veux pas aller plus loin, parce que... Et voyez-vous, je me suis habillé différemment ce soir. Vous l'avez sans doute remarqué.
Oui.
Premièrement, il fait moins chaud. Mais deuxièmement, si je me mets là, vous verrez peut-être mieux. Est-ce que j'avais déjà cette paire de pantalons cet après-midi? Ma femme chérie, est-ce que j'avais déjà ce pantalon cet après-midi? J'avais déjà ce pantalon cet après-midi. Eh oui. Mais je n'avais pas la veste. J'avais un petit gilet, hein, pour le cas où. Bon. Et la cravate, bien entendu, qui s'ajoute ce soir. Hein. Mais c'est le complet qui m'intéresse. Si j'ai mis le complet ce soir, bon, bien sûr, c'est par sens pratique, parce que je n'avais pas envie d'avoir froid. C'est aussi pour être bien, hein. Mais c'est pour une autre raison, en plus. C'est parce que on pourrait considérer que cet après-midi, j'avais le pantalon de la justification, et ce soir, j'y ai ajouté la veste de la sanctification. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est un complet. Et ça, c'est important parce qu'il est des chrétiens qui se contentent de la justification et à qui on se contente de parler de justification sans réellement aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui fait que parfois, pendant des années et des années, la seule prière officielle qu'ils savent dire publiquement le dimanche matin, au culte pendant le moment de prière, c'est « Seigneur, je te bénis parce que tu m'as sauvé de mes péchés. » Et on a l'impression, ce n'est pas de la moquerie ce que je dis, c'est plutôt douloureux, que le christianisme se réduit au fait qu'ils peuvent dire « je suis sauvé, c'est bien, un jour Jésus est mort pour moi », mais on a l'impression que le programme de leur vie avec Christ s'arrête là. Et que, en fait, en ce qui concerne la croissance chrétienne, autant on a été justifié par la foi, autant on va être sanctifié en transpirant du matin au soir, alors que la sanctification s'appuie sur la même base que la justification. C'est d'abord une affaire de foi. De foi. Les deux éléments, c'est le complet. Et je ne le tire pas de moi, je l'ai beaucoup apprécié dans un livre qui n'est peut-être plus publié, je n'en suis pas sûr, et qui dit ceci: la sanctification commence par un acte soudain de Dieu lors de la conversion. Dieu donne toujours la justification, et cette communication initiale de sainteté, qui est la sanctification, en même temps. L'Épître aux Hébreux énonce cette vérité en ces termes: « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute: « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Chapitre 10, versets 16 et 17. Dieu promet de mettre ses lois en notre cœur, de les écrire en notre esprit. Il s'agit de la sanctification de principe, ou que, comme j'aime à le dire, une sanctification en devenir, notre position en fait. Puis il promet de ne plus se souvenir de nos péchés. Il s'agit de la justification. Remarquez que la sanctification et la justification sont des dons de Dieu et manifestent sa grâce.
Tout en étant deux aspects distincts du salut, on ne peut les dissocier. Dieu n'accorde jamais la justification sans donner aussi la sanctification. Les deux ressemblent à la veste et au pantalon d'un même costume. Elles vont toujours de pair. Un ami m'a offert un jour un costume, il m'emmena dans une boutique et je ressortis avec le costume complet, la veste et le pantalon assortis. Ni l'une ni l'autre n'aurait suffi seul. C'est pour cela qu'on appelle cela un complet. J'avais besoin des deux pour constituer le costume que m'offrait mon ami. Nous considérons souvent le salut davantage comme des vêtements de promenade. Nous pensons que Dieu nous a donné le blouson de la justification par grâce, mais qu'il nous faut obtenir par la suite le pantalon de la sanctification. Or, le salut est complet. Il comprend toujours la justification et la sanctification. Dieu ne donne jamais l'un sans l'autre, car les deux sont nécessaires pour endosser le costume complet du salut. La sanctification commence par une action instantanée du Saint-Esprit et se poursuit par son œuvre continuelle dans la vie. J'ai là une autre illustration qui est très belle, qui est du regretté Jules-Marcel Nicole. Il écrit ceci, « La sainteté n'est pas le caractère spécial d'une élite parmi les chrétiens, mais la position commune de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ce point de départ est essentiel pour la suite. Si j'achète une maison, elle est à moi dès l'instant où l'acte de vente a été signé et où les clés m'ont été remises. Cependant, pour qu'elle devienne vraiment mienne, il faut que je la débarrasse des objets laissés par l'ancien propriétaire, que je fasse quelques aménagements, que j'y mette mes meubles, mes photographies de famille. Alors l'ami qui en franchit le seuil se rend compte qu'il est chez moi. Les deux aspects de la prise de possession se complètent. Je ne peux pas changer à mon gré mon nouveau domicile avant d'en avoir fait l'achat. Et je serais bien sot de l'acquérir sans y apporter les transformations indispensables. De même, dès l'instant où nous acceptons la grâce de Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. Nous sommes donc saints. Mais beaucoup reste à faire. Il faut que nous soyons débarrassés des vestiges de notre vieille nature, pourvus des qualités requises pour le service de notre Maître. Aussi, les apôtres ne se font-ils pas faute d'exhorter les saints à rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, à devenir saints dans toute leur conduite, à être toujours davantage sanctifiés. Dans le domaine spirituel, la consécration initiale et le développement ultérieur sont inséparables. Nous ne saurions progresser dans la vie sainte sans être d'abord libérés de l'esclavage du péché par l'action du Christ. Et cet affranchissement resterait tout théorique s'il n'aboutissait à des victoires concrètes dans notre marche quotidienne. Voilà, que nous soyons bien au clair là-dessus. Je crois que c'est important. Vous savez, on passe tellement par-dessus des choses essentielles aujourd'hui, puis alors on boite après dans notre compréhension du message. Enfin, quatrième point, après le contexte, l'importance, les définitions, la référence de l'apôtre Pierre, là, dans ce verset 16. Au verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Alors, pour ceux qui n'aiment pas le Lévitique, vous n'êtes pas des copains de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre va dans le livre du Lévitique pour chercher à appuyer cette parole de Dieu par une ancienne parole de Dieu prononcée quelques 1400 ans peut-être avant Jésus-Christ. Vous serez saints car je suis saint. Et c'est vrai que le Lévitique est le livre biblique spécialement consacré à la sainteté. J'y ai relevé 120 fois les termes saint, sainteté, sanctuaire, sanctifié, sans compter d'autres termes allant dans la même direction. Alors, on va en sortir quand même deux ou trois, parce que c'est important et intéressant. Dans Lévitique 11, 44-45, nous aurons l'occasion de revenir sur certains de ces textes plus tard. Lévitique 11, 44-45... dans un long chapitre, barbant au possible, loi sur les animaux purs et impurs, arrive une conclusion qui montre donc l'importance du chapitre, bien qu'il soit barbant, car ce qui indique les raisons pour lesquelles tout ce qui a précédé est écrit. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Comment Dieu voulait faire comprendre l'importance de la sainteté par rapport au péché, au peuple d'Israël. Par toutes ces prescriptions, qui bien sûr pour nous n'ont pas du tout la même valeur, on n'a pas les mêmes problèmes, mais les principes demeurent. C'est pour ça qu'il faut lire ces textes, parce que le principe concernant la distinction entre ce qui est juste et saint aux yeux de Dieu et ce qui ne l'est pas, le principe demeure. Voyez, les applications sont simplement différentes à notre époque qu'à l'époque où Israël vivait dans son territoire, etc., n'est-ce pas ? Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Mais bien-aimés, dans l'éducation des enfants, quand on veut bien éduquer ses enfants, on fait comme ça. Hein, pour leur apprendre la distinction entre le bien et le mal, on leur donne un tas d'exemples. Tu sais, ça, il ne faut pas faire. Ça, il faut faire. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus ça. Hein, ce qui fait que les enfants grandissent avec aucun point de repère et il ne faut pas tellement leur en vouloir à eux s'ils prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Ce sont leurs aînés qui n'ont pas fait leur boulot et leurs aînés maintenant, en 68, on ne faisait pas son boulot. Hein. On se comprend dans ce domaine, voyez. Mais dans une saine éducation, on dit à l'enfant exactement de la même manière, tu sais, ça tu peux le manger, la boue tu ne la mangeras pas. Et puis si l'enfant met son doigt par terre et commence à... Hein, on dit non, ça c'est pas bon. Par contre, ça tu peux manger. On lui apprend de cette manière qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Eh bien, dans l'éducation du peuple d'Israël, et avec des règles d'hygiène, de santé, etc., Dieu apprenait toutes sortes de principes qui avaient une dimension spirituelle également, pour qu'ils comprennent que ça atteint tous les domaines de la vie, non seulement le domaine matériel et physique, mais le domaine moral, le domaine spirituel. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. C'est fondamental. Et une société qui perd ses valeurs, eh bien, on voit le résultat aujourd'hui, hein, on voit très bien ce qui se passe sous nos yeux. Si vous allez dans Lévitique 19, versets 1 à 4... Lévitique 19, 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Et je vous fais remarquer ici que, curieusement, mère est en tête. Intéressant. Il y a bien des choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Hein? Mais en tout cas, vous savez, l'ordre dans les Écritures, ce n'est pas rien. Quand Dieu, dans une structure de phrase, met certains mots en tête et d'autres ailleurs, c'est qu'il veut faire passer un message. Hein? Donc chacun de vous honorera ou respectera, donnera du poids, donnera de la gloire, sa mère et son père, observera mes sabbats. Et je le dis au passage, le sabbat faisait partie dans la vie du peuple d'Israël d'un de ses aspects distinctifs de différence d'avec les nations qui appartient au programme de la sainteté. C'est intéressant. Israël devait se distinguer, être différent des nations dans l'usage qu'il faisait du temps, dans le cycle du temps. Et il est intéressant de voir dans notre société moderne comment on est en train de diluer tout cela, ou l'aspect distinctif du christianisme, ben bientôt c'est le vendredi qui sera férié parce qu'on sera devenu tellement islamisé que le dimanche aura disparu. Hein? Là encore, il faut dire, on voit une évolution qui est très problématique et qui montre que le christianisme n'est plus distinctif de plus en plus. Hein, quand vous sortez le dimanche matin, bientôt, quand vous passez dans les zones économiques, là, vous devez aussi vous faufiler bientôt entre les voitures, tellement les gens sont partout, comme pendant la semaine. Il n'y a plus de distinction. Voyez. Alors, oui, alors ce qui est intéressant, je vous le dis au passage aussi, c'est que dans ce chapitre 19, j'ai relevé 15 fois en 37 versets l'affirmation « Je suis l'Éternel ». Je ne vais pas la commenter, tout simplement parce que nous allons en voir le commentaire dans la suite. C'est lié à l'identité de Dieu. Comme nous allons le voir, justement, la sainteté du croyant est liée à l'identité de Dieu, l'affirmation « Voilà ce que je suis », dit Dieu. Je ne suis pas comme les idoles païennes, etc., etc. Vous voyez, je suis l'Éternel. Et c'est parce que je suis l'Éternel, avec tout ce que ça signifie, que vous êtes appelés à la sainteté. Alors ça, on va l'analyser ensemble un peu plus loin. Et alors on pourrait, d'ailleurs, dans les chapitres 21 et 22, il y en a continuellement. Regardez au chapitre 20 versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis, littéralement, moi je suis l'Éternel votre Dieu. Chapitre 20 versets 7 et 8. Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors voyez, je suis l'Éternel qui vous sanctifie et vous devez vous sanctifiez. Vous voyez, toujours le statut que Dieu nous donne et le statut que Dieu donnait à Israël dans l'Ancienne Alliance, il allait, disons, se concrétiser par la mort de Christ sur la croix, par l'effet rétroactif de la mort de Christ sur la croix, par pure grâce, n'est-ce pas? Bien entendu, pour ceux dont Dieu connaissait le cœur, qui voulait, au sein d'Israël, marcher avec Dieu, ce qu'on appelle le reste d'Israël, hein, parce qu'il y avait aussi toute la masse des formalistes, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre passage, verset 26 ? Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte plus tard. Voilà donc la référence de l'apôtre Pierre, et voyez comment l'apôtre Pierre va simplement chercher dans ce livre du Lévitique, c'est vrai, rébarbatif par certains côtés, mais vous ne pouvez pas comprendre l'Épître aux Hébreux si vous n'allez pas plonger vos racines dans le livre du Lévitique. Alors, il ne faut pas hésiter. Les premiers temps, on n'y comprend pas grand-chose, c'est rébarbatif, mais plus vous lisez le Lévitique en ayant des crayons de couleur, en soulignant, en notant, plus vous êtes bouleversé de voir peu à peu des grandes lignes de pensée de Dieu, de conception de Dieu se dégager de ces textes qui semblent si lourds au départ pour nous. Il m'est arrivé de dire, je crois même ici, que dans les écoles rabbiniques, donc des juifs orthodoxes, souvent, le premier livre dans lequel les enfants, les petits-enfants de 6-7 ans, 5-6-7 ans, juifs, apprennent à lire, c'est le Lévitique. C'est même incroyable. Hein? Alors, est-ce qu'il y a derrière cela aussi, justement, la pensée de l'importance de la pureté, qui est tellement essentielle dans la pensée des juifs orthodoxes, c'est possible, n'est-ce pas? Mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est par là qu'ils commencent à apprendre souvent par cœur le texte du livre du Lévitique. Donc voilà pour les éléments d'introduction sur cet impératif « Soyez saints ». Alors, pourquoi cet impératif? On va bientôt bientôt terminer. Pourquoi cet impératif? Nous reprenons 1 Pierre 1. Pourquoi donc cet impératif? Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Alors, au verset 14, vous avez cette expression « comme des enfants obéissants ». Et au verset 17, vous avez cette expression « et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun ». Et pris comme en sandwich, entre ces deux expressions « enfant » et « père », vous avez l'impératif. Il y a manifestement un lien entre l'impératif et ces deux mots. Et on a la certitude qu'il y a un lien pour une raison très simple, c'est que le terme « enfant » en français, c'est un terme assez général, au point que nos enfants, même s'ils ont 35, 40 ans ou plus, ils restent nos enfants jusqu'à ce que eux ou nous disparaissent, n'est-ce pas? Au point même que les premières fois qu'un de nos enfants est devenu adulte et qu'il nous entend curieusement lui dire ou dire à quelqu'un « nos enfants » en présentant, parfois ils se vexent. Parce qu'ils n'ont pas encore compris, ou à un moment donné, ils réalisent que, mais ils n'ont pas compris que le sens du terme « enfant » est beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? On garde toute sa vie un statut d'enfant par rapport à des parents tant qu'ils sont vivants ici-bas. Chez les Grecs, tout ça est beaucoup plus élaboré. Alors, bien sûr, vous avez le terme « adolescent », vous avez le terme « bébé », mais on est quand même un peu plus pauvre. Et vous avez une gradation dans les termes dans le grec. Et vous avez, par exemple, un terme qui est souvent utilisé, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, d'une manière assez forte, dans Hébreux 12, oui, versets 4 et suivants, sur la discipline. C'est un terme qui évoque toujours l'enfant dans sa minorité lorsqu'il est... il est en cours d'éducation, il est sous discipline, si vous voulez, voyez. L'insistance dans l'usage de ce terme, c'est sur le fait qu'il n'est pas encore adulte et qu'il a besoin d'être éduqué. C'est pas ce terme qui est utilisé ici. On le voit fréquemment, ce terme, dans la Bible, mais pas ici. Ici, c'est un autre mot grec qui a cette particularité, c'est que sa racine, le verbe dont il vient, veut dire engendrer, mettre au monde. Et il souligne donc la communauté de nature entre l'enfant et les parents. D'où mon intitulé de la première raison de cet impératif, tel père, tel fils. Vous serez saints car je suis saint, je suis votre père, et vous êtes véritablement mes enfants. C'est-à-dire que je vous ai adopté. Vous êtes nés de moi. Grand thème, vous vous souvenez de la première épître de Jean. Hein? 5 directions d'identité du véritable disciple de Jésus-Christ, toutes rendues par l'expression « celui qui est né de Dieu ». Dieu est mon papa. Je suis né de lui. Non pas né de la volonté de la chair ni des hommes, dit le début de l'évangile de Jean, mais né de Dieu. Né de Dieu. Vous êtes né de Dieu, vous avez changé de père, nous sommes participant à la nature divine, 2 Pierre 1,4. Attention, ça ne veut pas dire que nous sommes divinisés, c'est une mauvaise manière de comprendre, mais nous sommes en communion avec la nature de Dieu, nous sommes rendus conformes à la nature divine par le Saint-Esprit qui habite et œuvre en nous, et nous sommes appelés et conduits à refléter les qualités morales de Dieu. Nous avons une relation d'intimité privilégiée avec Dieu, faite de droit et de devoir. Il doit y avoir un air de famille. Est-ce qu'il y a un air de famille entre Dieu et moi? Nous avons vu cette fin d'après-midi avec beaucoup de plaisir un des enfants de Patrick et Martine Pelechko de Saint-Lô. Quand je l'ai vu, ça fait un certain temps qu'on ne l'avait pas vu, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, on ne peut pas se tromper. Hein? Quelle ressemblance! À la fois dans le physique, mais aussi même dans certaines expressions. J'étais impressionné, vous voyez, un air de famille. Est-ce qu'il y a un air de famille? C'est ce que l'apôtre Pierre veut dire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un air de famille? Pendant la guerre de 30 ans, 1618-1648, en Europe, le roi de Suède, Gustave Adolphe, fut tué pendant que ses troupes remportaient la bataille de Lützen, dans ce qui est maintenant l'Allemagne. La Suède fut plongée dans le deuil et les fonctionnaires du gouvernement se rencontrèrent pour déterminer comment remplacer le roi. Certains suggérèrent d'établir une république, d'autres crurent que la couronne devait revenir au cousin d'Adolphe, le roi de Pologne. Le chancelier de Suède se leva et dit « Ne parlons pas de république ni de roi polonais, car nous avons parmi nous l'héritière du grand Gustave, sa petite fille qui a 6 ans. » Certains protestèrent qu'ils ne l'avaient jamais vue. Le chancelier dit « Attendez-moi une minute et je vous la montrerai. » Il fit entrer Christina, la fille du roi, la fit asseoir sur le trône. Un des députés qui était particulièrement méfiant à l'égard de cette manœuvre s'avança et la regarda avec une vive attention, puis se tournant vers l'assemblée, il s'exclama « Mais regardez son nez! Regardez ses yeux! Regardez son menton! Je vois dans la mine de cet enfant les caractéristiques du grand Gustave. Elle est bel et bien l'enfant de notre roi. » De tous les coins de la chambre, on entendit la proclamation suivante « Christina, reine de Suède ». Air de famille.